opération d'intérêt national donc menée par un établissement public sur une bonne partie de ce territoire. Ensuite, vous aurez l'occasion de voir la traduction de cette opération en différentes maquettes qui se trouvent juste là, avec des maquettes de territoire qui donnent à voir les principales opérations par territoire, mais aussi sur des maquettes des principaux équipements et bâtiments emblématiques, en tout cas un certain nombre. Vous avez également un stand de réalité virtuelle qui montre un de nos quartiers spécifiquement en réalité immersive qui est assez intéressant que je vous conseille de tester. La présentation que je vais vous faire ce matin est une présentation en quatre temps qui donne à voir un peu les différentes facettes à la fois du projet et de l'outil. Donc un premier temps sur l'outil, sur l'opération d'intérêt national, sur ses objectifs de développement économique. Un deuxième temps sur la dynamique dans laquelle on s'inscrit, finalement une vision un peu comme un planning qui donne à voir comment on a avancé jusqu'à présent et quels sont nos objectifs. Un troisième temps sur le projet urbain, donc à l'échelle de l'ensemble du territoire. Et un dernier temps qui zoomera sur l'application de ce projet urbain à travers quelques quartiers et leur diversité. Donc, Euratlantique est un EPA, est un projet, il y a un projet d'intérêt national. Des EPA, il n'y en a pas beaucoup en France. On est entre 5 et 10. Les plus connus, c'est à La Défense, c'est Saclay, c'est Marseille. Et puis, il y a nous. Ce sont des outils qui ont pour but à la fois d'aider au développement du territoire, donc un rôle d'aménageur classique, créer des rues, des quartiers, des places, des espaces publics, permettre de libérer du foncier, mais également un rôle de développement économique, puisque quand on crée des quartiers aussi gros, certes ça va loger des gens, mais il faut aussi leur trouver un emploi. Tout ça pour dire que pourquoi il y a eu la mise en place d'un tel projet sur la ville de Bordeaux. Bon, vous savez, enfin, vous savez pas ou peut-être pas que Bordeaux est une ville extrêmement attractive. On a toujours un certain nombre de distinctions sur la qualité de vie et ainsi de suite. Je vous montre ça pas pour étaler les médailles, mais plutôt pour essayer de donner un contexte de ce qui est en train de se passer dans cette ville depuis une dizaine d'années, avec une reconnaissance, une attractivité extrêmement forte, qui, appuyée au développement des connexions, à la fois à l'échelle nationale et à la fois à l'échelle internationale. On a la ligne TGV qui est arrivée en juillet, qui nous permet d'avoir 30 allers-retours à 2 heures de Paris par jour. On a un aéroport qui, en l'espace de 5 ou 8 ans, a plus que doublé sa fréquentation, mais aussi son nombre de destinations à l'échelle européenne et méditerranéenne, qui fait que tous ces facteurs combinés, le sentiment de qualité, de cadre de vie agréable, l'héliotropisme, la connexion aux autres territoires, font qu'il se passe quelque chose dans cette ville. Et ça se traduit également par un fort mouvement démographique, puisqu'on a peut-être plus de 10 000 habitants qui arrivent par an. Et donc, il faut les loger, il faut les accompagner pour que, à la fois, ils s'installent dans de bonnes conditions, mais qu'à la fois, la métropole garde cette qualité. Donc du coup, ça met un certain enjeu, ça met une ambition très forte dans les projets que nous devons développer. Ça nous donne également des moyens, puisque derrière, il y a un marché qui se crée. Alors pour répondre à ça, la métropole de Bordeaux a mené depuis une vingtaine d'années un vaste projet urbain à l'échelle de la métropole. Donc vous retrouvez ici la métropole avec sa rocade qui en fait le tour, une rocade assez longue par rapport aux autres rocades françaises. Le centre de la métropole qui fonctionne autour de la Garonne, que vous retrouvez ici. Le centre métropolitain qui a une forme de clair de lune, d'arc de cercle. Et une des caractéristiques de cette ville, c'est que les zones de développement, les zones de réserve foncière, en quelque sorte, même si le portage foncier n'est pas formalisé, se situent au cœur de la métropole, se situent à la limite exacte du centre-ville historique, du centre-ville labellisé UNESCO. Tout le reste, de l'intra-rocade, étant déjà largement urbanisé. Donc la ville mène depuis un certain temps un projet urbain qui consiste quelque part de passer de ce deux tiers de cercle à un cercle complet. L'image, la métaphore, c'est passer du clair de lune à la pleine lune, et qui consiste en un certain nombre d'opérations d'aménagement de différentes tailles. Certaines, je pense que vous avez déjà visitées. Vous avez bassin à flot au nord, Brazza, Bastignel, et puis Euratlantique. Et Euratlantique, c'est ce périmètre violet que vous voyez sur la carte. C'est autour de 600 hectares. Je ne sais jamais exactement la taille du périmètre, puisque c'est un périmètre où il y a à la fois des zones déjà habitées et des zones de projet. Enfin, 600 hectares, c'est important. Ça part du pont de Pierre, qui est quelque part symboliquement le centre de la métropole, jusqu'à la rocade, de part et d'autre du fleuve, et particulièrement derrière la gare et autour de la gare. Ce qui donne un poids au périmètre euratlantique et à l'outil euratlantique extrêmement important dans la métropole, puisque ça représente à peu près 40% des capacités de développement de la métropole jusqu'en 2030. Donc c'est ce poids multiplié à cette attractivité, associé à cette attractivité, qui nous permet de mettre en œuvre les projets que je vais vous présenter et le rythme de ces projets, qui est, je pense, une de nos particularités. Bordeaux-Euratlantique, donc, pour résumer en quelques chiffres, dans les 500 ou 600 hectares que je vous ai évoqués de périmètre, il y a réellement 220 hectares mutables à faire muter. L'objectif, c'est d'y intégrer 50 000 emplois et 50 000 habitants. Ce matin, c'est dur. C'est plus dur qu'hier. 50 000 habitants et 30 000 emplois. On sera peut-être un peu plus à la fin, puisqu'on voit qu'on a des... Plus on avance, on voit qu'on a des marges de manœuvre. Nos deux principales activités, c'est l'aménagement et le développement économique, comme je vous le disais. Et l'objectif, c'est clairement que notre territoire, notre projet, soit une continuité en douceur du centre métropolitain. On ne veut pas être un quartier nouveau, on ne veut pas être un quartier d'affaires, on veut être une extension du centre métropolitain dans sa densité, dans ses services, dans ses usages, et ainsi de suite. Et ce qui, du coup, fait que, à la fois, les notions de mixité, qu'elles soient programmatiques, d'usage, de pensée, de méthode et de résilience, sont au cœur de notre process. Et on pense que c'est comme ça qu'on va réussir à faire cette ville du XXIe siècle. On y reviendra plus tard, puisque derrière ça, il y a, et c'est une des particularités de Bordeaux, il y a une très forte identité dans cette ville. Quand on est à Bordeaux, on sait qu'on est à Bordeaux. On se promène sur les quais, on se promène dans le centre historique, on se promène dans les quartiers neufs, et ainsi de suite. Il y a quelque chose, on en parlera plus tard, qui fait qu'on sait qu'on est à Bordeaux. Tout l'enjeu, c'est de se dire, quand on fait un quartier neuf, comment on continue à être à Bordeaux, tout en étant au XXIe siècle, et qu'on ne se retrouve pas, qu'on n'ait pas l'impression, moi je ne sais pas, d'être n'importe où ailleurs, dans des quartiers neufs en France, ou à Sao Paulo, ou aux États-Unis. Et tout ça intervient dans une temporalité, avec une opération qui a été lancée en 2010, donc un accord politique entre les collectivités et l'État pour mettre en place ce projet. Nous, on est dépendants de l'État, notre actionnaire principal, enfin notre actionnaire, il est tout seul d'ailleurs, c'est l'État. Par contre, on travaille avec les collectivités en concertation quotidienne pour définir ce que l'on fait. Avec un terme d'opération en 2030, notre objectif est clairement d'avoir fini tous les mètres carrés, tous les emplois en 2030 et de fermer l'établissement. Alors, ce sera 2030, 2032 ou 2029, on verra quand on y sera. Mais c'est un projet cadenassé dans le temps. Et aujourd'hui, en 2017, on est sur une période de basculement. Grosso modo, donc arrivée de la LGV. Donc en 2010, les partenaires se sont mis d'accord pour lancer l'outil. Jusqu'en 2012-2013, l'outil s'est créé, recrutement des premières personnes, structuration administrative et ainsi de suite, de l'établissement et des outils opérationnels, ZAC et ainsi de suite. 2014-2015, premier lancement opérationnel, et en réalité, les chantiers commencent réellement en 2015. De 2015 à 2017, c'est ce que vous allez voir sur le terrain. Ça commence. Ce n'est pas encore tout à fait ça. On a 20-25 grues sur le territoire. Notre objectif est d'aller plus loin. On va le voir un petit peu après. Les axes stratégiques, je vous les ai évoqués, les emplois, les habitants, les quartiers. une programmation concertée sur les typologies de logements et ainsi de suite, assez importante d'ailleurs par rapport à ce qui se pratique en général, pour des effets de rattrapage à l'échelle de la métropole, mais aussi un maître mot, une vraie exigence sur la qualité, ça revient aussi à ce qu'on disait sur l'identité de la ville, et sur des questions d'innovation, non pas par effet de mode, mais plus par se creuser la tête pour essayer de changer les méthodes, pas forcément être dans l'application assez simple de j'achète un terrain, je le démolis, je le revends sous une autre forme ou avec des droits à construire. Et le tout avec comme arrière-pensée que l'argent public est de plus en plus rare, qu'on n'aura pas de crédit supplémentaire, et donc que cette façon de réfléchir, cette façon de monter le projet, cette donc, logique d'innovation dans le projet, qui n'est pas que technique, hein, c'est pas du gadget high-tech ou ainsi de suite, ça sert à continuer le projet, à l'amener plus loin, justement, dans cette logique de sobriété d'argent public. Notre modèle économique est le suivant. Pacte fondateur de l'établissement avec les différentes collectivités et l'État, qui amène 100 millions d'euros à l'établissement sous forme de terrain, sous forme d'argent et sous forme de facilité d'emprunt. Avec ces 100 millions d'euros, ça nous permet de lancer l'outil, de récupérer donc des terrains, d'en acheter d'autres, de les valoriser et de mettre en place une machinerie qui permet d'avoir un budget de l'EPA à terme entre 900 millions, peut-être 1 milliard d'euros, qui est en gros la valeur de tous les terrains qu'on achète et qu'on revend, va et vient. Et ce 900 millions d'euros permet à terme de générer 5 milliards d'euros d'investissements privés sur l'opération, avec les coûts de construction, les études et ainsi de suite, qui sont menés par les promoteurs et les différents investisseurs du quartier. Le tout, donc, effet de levier assez important, hein, 100 millions d'euros d'argent public au départ, 5 milliards et quelques à la fin. Si on se pose même la question de ce que ça rapporte comme TVA à l'État, c'est plutôt un bon investissement. Et surtout, ça fait de l'investissement qui arrive localement, puisqu'une grande partie, une très grande partie de nos marchés, que ce soit d'études ou de travaux, se fait localement. Donc ça, c'est une façon de faire du développement économique, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Une autre façon de faire du développement économique, c'est aussi de créer des locaux pour accueillir les entreprises, pour les attirer dans une logique de concurrence. La ville de Bordeaux était un petit peu en retard sur son parc d'immobilier tertiaire. Il n'était pas au goût du jour, il n'était pas concurrentiel. Et donc, depuis 2015, on voit une montée en charge progressive de l'offre de bureaux tertiaires, accompagnée par une politique de développement économique, de recherche d'emploi, de développement local ou développement exogène, qui se traduit par une courbe que vous voyez là, et qui permet de répondre à ces enjeux, Euratlantique prenant une part assez significative du développement de la métropole dans ce domaine-là. L'idée sous-jacente, c'est grosso modo, nous, nos loyers, ils sont à 180-200 euros dans des conditions de confort et de cadre de vie plutôt sympathiques. On est à 2 heures de Paris. Vous comparez notre niveau de loyer, notre niveau de confort de vie et le niveau de service qu'il y a autour avec ce qui se passe à Cergy-Pontoise, Mantes-la-Jolie ou ainsi de suite. Et après, on voit où les entreprises veulent aller. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc, ça nous permet, depuis 2-3 ans, d'avoir un certain nombre d'entreprises qui s'installent. Pour l'instant, essentiellement des entreprises locales, donc un développement et une mutation endogène qui se réintègre dans un parc nouveau. Et de plus en plus, et justement avec la visibilité du quartier qui commence à se voir, les immeubles qui commencent à sortir, le TGV qui arrive, des emplois exogènes, avec un certain nombre d'annonces qui ont été faites récemment et qui vont continuer dans les mois à venir de transfert d'activités localement. Attendez. Alors, tout ça, vous voyez, il y a une forme de logique entre développement économique, développement du territoire, développement urbain. Ça rentre dans une logique de dynamique. La dynamique de Bordeaux, elle n'a pas attendu Euratlantique pour se mettre en place. Et depuis que Euratlantique existe, là aussi, c'est monté crescendo pour arriver à une vitesse de croisière. 2010, création de l'établissement. Les 2-3 premières années, c'est vraiment de l'administratif dans des bureaux et ainsi de suite. 2013, début des premières actions un peu réelles sur le territoire, même si ça ne se concrétise pas forcément par des immeubles et ainsi de suite. En particulier, mobilisation du secteur économique autour de la cité numérique, j'y reviendrai un peu plus tard, ou grosso modo, pour permettre la création d'un cluster associé à la French Tech, on mobilise les acteurs, les startups, les entreprises mieux installées sur la ville dans le domaine du numérique, pour qu'elles se parlent, qu'elles imaginent un projet qui soit à leur image, et on essaie d'appliquer ce projet à un centre de tri qu'on avait hérité, qui était un énorme bâtiment dont on ne savait pas trop quoi faire, et imaginer un lieu pour elles. De la même façon, sur un parc d'activités, une ancienne friche pétrolière, où on fait la même chose avec les entreprises green, et ainsi de suite, plus 2-3 immeubles tertiaires qui commencent à pousser par initiative privée, flairant peut-être une bonne opération. À partir de 2015-2017, là, on rentre dans les premières vraies livraisons avec ce que vous allez voir en vous promenant en bus, un certain nombre d'immeubles assez importants, la nouvelle gare, des immeubles de bureaux, et ainsi de suite, qui commencent à faire comprendre, à la fois aux Bordelais, mais à une échelle plus large, que c'est là que ça va se passer autour de la gare. Et puis, depuis un an et demi, on rentre dans la phase préparation de la maturité de l'opération, avec une multiplication des chantiers et de projets. Donc tous ces immeubles que vous voyez là, par exemple, ce sont les grues que vous allez voir. Ils sont tous sous forme de plutôt béton nu actuellement, mais avec des livraisons qui vont arriver là dans les jours qui viennent. Enfin, dans les mois qui viennent plutôt, des grands équipements, des immeubles de bureaux et ainsi de suite. Mais surtout, une multiplication conséquente de projets. Ce sont des projets dont les permis de construire sont en cours d'instruction. Pour vous donner un ordre d'idée, on visait 50 permis de construire sur cette année. On n'y est pas, on est plutôt à 45. Mais c'est quand même assez conséquent à l'échelle d'une opération comme ça, sachant que les permis de construire, c'est à peu près de la taille de 5-6 000 m² jusqu'à 30 000 m². Donc on a vraiment une palette assez importante qui se multiplie. Et en gros, on arrive à vitesse de croisière. Donc, ce qui fait que la réalité physique de l'opération, elle va se voir à partir de la rentrée 2018, quand les PC et ainsi de suite auront fini d'être purgés, et où on va multiplier les zones de projet, passer de 25 grues à peu près à 60-70 en fil tendu, et création simultanée de plusieurs quartiers. Donc, montée en puissance, et là, on arrive à la ligne de crête qu'on va poursuivre jusqu'en 2025-2027 pour ensuite atterrir doucement avec la fin de l'établissement. Tout ça pour mener un projet urbain. Alors, le projet urbain, à l'échelle du territoire, on a mis en place une philosophie, une méthode peut-être un peu particulière, c'est-à-dire que nos données d'entrée n'ont pas été un plan d'urbanisme un peu figé, fixant les rues, les parcs, les bâtiments et autres, mais plutôt de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut faire à tel ou tel endroit du quartier. Pourquoi ? Parce que déjà, 500 ou 600 hectares, c'est trop grand. On ne s'en sort pas. On arrive. Moi, je suis là depuis 2 ans et demi. Ça fait peut-être 3 mois que j'ai à peu près compris tout ce qui se passait sur notre territoire. Quand quelqu'un arrive chez nous, les 6 premiers mois sont horribles parce qu'il y a une impression de débordement d'informations. On en parlait encore tout à l'heure avec une collègue. Une présentation comme ce que je vous fais là, je pense qu'on la fera la semaine prochaine dans les équipes parce qu'on a besoin constamment de s'informer entre nous de la multiplicité des projets qu'il y a sur un territoire aussi vaste. Donc la première question, c'est comment on fragmente ce grand territoire pour y voir plus clair sur des unités plus petites. Comment on met au cœur de notre réflexion la question de la dynamique, de l'usage, comment on s'adapte aux besoins des uns et des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons inventer comment telle entreprise ou tel habitant doit vivre, mais c'est plutôt l'inverse. Pour qu'une entreprise vienne, qu'est-ce qu'elle veut, et ainsi de suite. Pour qu'un habitant se reconnaisse dans son quartier, qu'est-ce qu'il lui faut, et ainsi de suite. Et donc, on a calé ce système-là avec ensuite les inputs programmatiques que je vous évoquais plus haut et puis les notions d'espace public, d'espace vert qui accompagnent tout cela. Donc, ça génère ensuite une réflexion de découpage de l'opération. Un premier découpage d'ailleurs plus large que les taches de couleur que vous voyez là, qui est une notion de territoire plus organisationnelle qui calque notre organisation interne. Et puis ensuite, des quartiers. des quartiers qui ont été calqués sur la taille des quartiers existants de la ville. C'est-à-dire que l'enjeu principal, c'est pas de dire on va rêver tel ou tel quartier, c'est comment on va vivre dans un quartier demain qui va être fait quasiment ex nihilo. Donc typiquement, quand on a fait cette carte, ça a été un peu basique, mais on a pris un calque, on a pris les quartiers existants, le quartier Saint-Michel, le quartier Saint-Pierre, le quartier de la Bastide, et on les a calqués sur le territoire et on a essayé de faire des choses à peu près homogènes en termes de taille et autres, en se disant, mais en fait, c'est l'unité de vie. Quand je suis habitant, quand je suis salarié, c'est rare que je fasse plus de 300-400 mètres à pied pour aller manger, pour aller à la poste, pour aller me faire soigner ou aller à l'école. Ça nous a, et bien entendu, on regarde quand même un petit peu ce qui se passait dessous, hein, ça n'a pas été fait comme ça, et en cherchant à organiser, définir ces quartiers, notre organisation matérielle à l'intérieur de l'OPA et nos partenaires correspondent aussi à celle-là. Et ensuite, tout le travail, c'est d'y apporter des identités propres. De la même façon que quand on est dans Bordeaux, dans les quartiers existants, quand on est dans le quartier Saint-Michel, on sait qu'on n'est pas dans le quartier Saint-Pierre et qu'on n'est pas dans le quartier Bastide. C'est un petit peu différent. Et le garde-fou que l'on mène, c'est qu'il y ait malgré tout une cohérence et que cette cohérence ne soit pas celle juste de l'Atlantique, mais soit celle du Bordeaux historique à travers les âges. Pour accompagner ça, l'essentiel, c'est que chaque quartier soit aussi doté d'un nombre d'équipements et de services publics et au public sur chaque quartier. Services publics ou au public, pour nous, la différence est extrêmement importante. La question n'est pas uniquement de se dire pour tant de mètres carrés de logement, il faut tant de nombre de classes ou tant de collèges, et ainsi de suite. C'est ça. Et évidemment, on essaie de faire en sorte que ces grands équipements publics soient coordonnés en termes de livraison avec nos livraisons de logements. Mais c'est aussi tous les autres services au public qui font le quotidien et qui font qu'on est en ville. C'est où est-ce qu'est le distributeur de billets ? Est-ce qu'il y a vraiment une boulangerie pas trop loin ? Est-ce qu'on a suffisamment de médecins ou d'infirmières ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ce sont plutôt ces éléments qui guident la conception du projet que l'approche spatiale, ainsi de suite, l'approche spatiale se calquant sur ces éléments. Si je veux faire venir une boulangerie, si je veux faire venir des médecins, et ainsi de suite, comment je crée des linéaires commerciaux, comment je crée des centralités de proximité, comment elles se font, et ainsi de suite. Et ce sont les inputs d'entrée du projet. Et donc, ça nous amène à avoir un plan guide évolutif qui est celui-là, qui n'est pas à jour. En fait, il n'est jamais à jour. Il change tout le temps. Ces deux dernières années, au début, il changeait même tous les 15 jours. Maintenant, on s'est un peu calmé. C'est plutôt tous les deux mois. Mais ça nous permet constamment d'adapter les projets, d'adapter les formes et autres. Et puis derrière, on a une espèce de méga fichier Excel de programmation. Un truc... Enfin, la personne qui s'en occupe, je le plains. Il fait quasiment ça à plein temps. Et il a juste le plan et il a juste les programmations pour fixer les choses et nous aider à conduire l'opération et savoir où on en est. Ce qui fait qu'il y a, dans notre façon de faire, et les gens qui travaillent avec nous ici le savent, ça change. Ça change régulièrement. Quelqu'un ici, même jusqu'à la couleur du bâtiment, quoi, qui, la veille du chantier, peut changer. On est dans une logique dynamique. Très clairement. Ça, je pense que c'est une de nos grandes forces qui permet d'avancer. Et donc, c'est ces éléments-là qui nous permettent de dire, en tout cas on espère qu'on aura ce résultat, qu'on conçoit vraiment cette opération comme une extension du centre métropolitain. C'est-à-dire qu'on veut vraiment ne pas voir la différence quand on passe du quartier déjà historique au quartier neuf. Et quelque part, c'est presque une logique anti-Zax. Vous voyez, on ne veut pas être perçu comme un quartier neuf. Et en même temps, on sera neuf, hein, donc on verra. Et pour faire le lien entre ces différents quartiers, ces différents usages ou autres, on a quelques politiques transverses ou quelques éléments qui vont donner de la cohérence. Parmi ceux-là, il y a tout ce qui est travail sur les espaces publics et les espaces verts, avec une volonté de mise en cohérence, même si ceux-ci ont chacun leur spécificité quand ils se trouvent, mais mise en cohérence à travers les mobiliers, les éclairages, tout simplement la philosophie de faire. Autour de toujours quelques idées centrales qui reviennent tout le temps, la sobriété. On n'est pas là pour faire des espaces publics qui aient des effets waouh. même si on, l'idéal, ce serait qu'on ne les voit pas, nos espaces publics, que ça soit perçu comme tellement naturel, comme une continuité tellement naturelle, qu'on ne se dise pas, là, c'est différent. La domesticité, c'est l'usage. C'est-à-dire que quand on va faire un espace vert, on va plus s'intéresser à comment on peut jouer au foot ou s'allonger sur la pelouse sans avoir à l'impression d'avoir à demander l'autorisation de jouer au foot ou s'allonger sur la pelouse que de la jolie perce. Presque la perce ne va pas nous intéresser au système. Et la durabilité étant à la fois une notion pour nous de coût de l'investissement, comment on multiplie ça, de coût de gestion, mais aussi parce qu'on est dans une zone fortement inondable. Notre NGF moyen, c'est 5 à 6 mètres. Donc on est fortement soumis aux marées et aux tempêtes de l'Atlantique, renforcées par les effets de changement climatique. Et donc on a souvent dans nos espaces publics une recherche d'effets de cuvette ou autre qui nous permet de limiter les risques d'inondation, en fait de renvoyer les risques d'inondation sur ces cuvettes et nous permettre de mettre en sécurité à la fois nos nouveaux quartiers, mais aussi les quartiers existants. Donc ça c'est des éléments assez majeurs dans notre piste en cohérence. Et c'est très structurant à l'échelle d'un quartier aussi grand. Ça veut dire que nos espaces publics, il y a énormément de nous, énormément de végétation. Ça participe aussi aux zones de fraîcheur et ainsi de suite. Autre élément de cohérence, c'est à quoi ça va ressembler en termes d'architecture, d'identité. Et donc là, il y a tout un travail sur la cohérence architecturale dans l'opération. Cette cohérence architecturale, si je caricature, on aurait pu avoir deux choix d'orientation. Soit se mettre dans la logique, la continuité de la plupart des opérations d'urbanisme.
Mesdames et messieurs, la conférence sur l'évolution du paysage d'Hyderabad va débuter à l'espace jardin au rez-de-chaussée.
Donc, soit se mettre un peu dans la logique des opérations d'aménagement qui sont menées en France depuis 15-20 ans, avec beaucoup d'immeubles de toutes les couleurs, de toutes les formes, et ainsi de suite. Soit au contraire, de se dire comment on fait pour être le Bordeaux du 21e siècle. Quand on se promène dans cette ville, on se rend compte que des bâtiments antiques jusqu'aux bâtiments des années 60-70 ont une forme de continuité évidente, même s'ils n'ont rien à voir les uns des autres. Le théâtre antique n'a rien à voir avec des bâtiments médiévaux, qui n'ont rien à voir avec les bâtiments du 18e siècle, qui n'ont rien à voir avec les bâtiments art déco, qui n'ont rien à voir avec certaines cités des années 60. Et pourtant, c'est pareil. Pourquoi c'est pareil? Parce qu'on retrouve un certain nombre de lignes, de thématiques qui sont communes. Notre enjeu, c'est comment ces lignes, ces thématiques, on arrive à les réemployer aujourd'hui au 21e siècle pour être dans cette continuité, tout en étant une architecture contemporaine du 21e siècle. Ce qui fait que cette réflexion, qui n'est pas sortie comme ça en deux minutes, hein, on a un peu tâtonné pour y arriver, nous a amené à avoir une méthodologie qui, à la fois, fait qu'en tant qu'aménageur, on n'utilise plus de fiches de lot, plus de fiches de prescription, plus d'architectes conseils. Par contre, on sait le terrain qu'on vend, les limites d'emprise, la fonctionnalité de l'emprise par rapport à son environnement fonctionnel, urbain et technique. Et on demande à chaque groupement de maîtres d'œuvre et de maîtres d'ouvrage de réfléchir sur 6 axes qui nous semblent être le socle de cette identité bordelaise. La question de la matérialité, comment on fait des bâtiments qui soient lourd, pesant, donc c'est plutôt des bâtiments à base de béton, de pierre, de briques, d'enduit, ainsi de suite. Grosso modo, chercher à éviter les bardages et ainsi de suite. La couleur, comment on essaie de s'inscrire dans cette tonalité blonde de la ville, qui est en réalité une multitude de râles qui vont du gris clair au blond pétant et au blanc passé, mais qui donne à voir ça. La question des volumétries et des ouvertures dans les constructions nouvelles, volumétrie qui affirme à la fois une certaine radicalité des constructions, mais qui cherche aussi à alléger par les volumes. Les ouvertures, quand vous promenez dans cette ville, toutes les fenêtres font 4 mètres de haut. Bon, comment on fait pour, dans une construction moderne qui fait 2,50 m de hauteur sous plafond, pour avoir une fenêtre qui fait 4 mètres de haut? Donc toutes ces questions-là, le fait d'être plutôt dans le détail ou un ou deux détails, pas plus, mais pas dans la multiplicité, et surtout, comment on travaille la relation au sol. Comment on travaille la relation au sol, c'est là où se croise la question finalement d'architecture, d'image, avec notre question d'usage. Et donc une de nos grandes de nos gros axes de travail, c'est qu'est-ce qu'on met dans les socles, comment on fait pour que les socles soient animés, comment on fait venir des commerces, des usages, des activités, et ainsi de suite. Le tout en contradiction totale avec nos contraintes PPRI, puisque souvent nos socles sont à plus d'un mètre du trottoir. Donc comment on fait pour mettre un linéaire commercial quand il est à un mètre du trottoir, et ainsi de suite. Autre thématique transverse à l'opération, alors elle ne se voit pas, puisque bien qu'on ait une politique de construction bois assez ambitieuse, on souhaite qu'elle ne se voit pas en façade, pour des questions justement de durabilité et de compatibilité avec l'image de la ville que je vous évoquais précédemment. Mais par contre, on est dans une grande région qui est certainement la région qui produit le plus de bois en France, et une des plus grandes en Europe, entre les bois des Landes, les bois du Limousin, et ainsi de suite. Et donc tout l'enjeu, c'est comment on fait du développement économique par notre projet. Et donc on s'est engagé à donner à voir un taux de production assez important. On s'engage à 25 000 m² de construction d'immeubles de bois majoritaires chaque année, pour que les producteurs forestiers, les industriels forestiers locaux aient une visibilité de débouchés et donc investissent lourdement. Et ce phénomène, qu'on accompagne d'immeubles totems et ainsi de suite pour communiquer là-dessus, fait qu'il y a des entreprises locales, ça y est, elles ont investi, elles ont acheté des machines-outils, elles ont acheté des machines à découpe laser, des trucs de CLT, de lamellé-collée et ainsi de suite. Et ça participe à ce développement économique local. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de mises en lien de toutes nos politiques territoriales ou autres. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, sur le numérique, sur l'usage du numérique dans la conception, sur les méthodologies de travaux, ainsi de suite, mais je ne vais pas vous noyer avec ça. Et tout ça, ça nous amène à un résultat fini, en tout cas en cours de finition, qui se fait à l'échelle du quartier. Donc je vais vous présenter quelques quartiers, les premiers qui sont en cours de réflexion, 5-6, que vous pourrez retrouver sur les maquettes, ainsi de suite. Donc tous nos quartiers, comme je vous l'évoquais, échelle taille humaine, 400 mètres à peu près en moyenne de long au large. Premier quartier, il n'y a pas d'ordre spécifique, hein, on les a mis comme ils venaient. Quartier Amédée, qui est un quartier qui est en jonction directe avec la ville de Pierre, encore dans le périmètre UNESCO, qui s'installe sur des friches ferroviaires dans lesquelles on retrouve des citernes qui ressemblent à des arcs de triomphe, on retrouve des vieux hangars avec des arcades et ainsi de suite. Et donc là, on a fait tout un travail de conception globale et commune du quartier, jusque dans la moindre architecture et la moindre programmation, qui va permettre, là, d'ici 3 semaines, de déposer des permis de construire sur environ 130 000 m² de bureaux, de logements et autres, en moins de 3 semaines, pour être construit dans une échelle de temps équivalente, et dans lequel les espaces publics ont été créés en même temps, toujours sur toutes les logiques à la fois d'identité que je vous ai évoquées, de programmation et autres, et qui, dans la spécificité de ce quartier, s'appuie à la fois sur une forme assez de radicalité des constructions, de simplicité, de sobriété, mais également dans les espaces publics, et avec la particularité pour celui-là d'être quasiment notre seul quartier où on aura de la topographie. Bordeaux est une ville plate. Là, on est au bord des remblais ferroviaires et donc on arrive à retrouver des emmarchements, des systèmes comme ça qui vont permettre d'apporter une qualité qui nous semble assez intéressante à l'opération. Deuxième quartier, c'est celui de la place d'Armagnac. Alors, c'est la centralité géographique de l'Atlantique. Vous y passerez tout à l'heure en bus. Je pense que vous ne reconnaîtrez pas. C'est juste hostile actuellement. C'est des friches ferroviaires, c'est l'arrière du mine, c'est des friches qu'on a cassées, et au milieu trône un espèce de centre de tri postal énorme dont on ne savait pas trop quoi faire. Et il y a une station de tram. Et notre maison du projet. Donc comme on était souvent à la maison du projet, on a eu plein d'idées. Là-dessus, c'est au centre de l'Atlantique. On voulait marquer la chose pour que notre quartier soit aussi une sorte de rhizome d'espace public. On veut fonctionner comme je vous le disais, avec en continuité de la ville historique. Vous êtes promené dans Bordeaux. Quand on se promène dans Bordeaux, on passe de petite place en petite place, de petite place en grande place, et ainsi de suite. On voit quasiment tout le temps, quand on est sur un espace public, l'espace public suivant qui permet de se repérer, et ainsi de suite. Et donc, celui-là, il avait vocation à donner du lien entre tous les espaces publics. Quand on sera sur cette place, on verra le grand jardin, on verra la place suivante, on verra une place ici, on verra le jardin qui est un peu plus loin, et fonctionner comme ça. Donc, on a travaillé avec un groupement d'opérateurs et d'architectes pour définir l'identité de ce site, tout en récupérant et annexant l'ancien centre de tri, qui va devenir un centre de congrès, ainsi de suite, donc qui permet de créer de l'usage des diversités, créer un ensemble de bâtiments autour qui vont créer une identité spécifique, et positionner à cet endroit-là les deux totems de notre politique bois, qui seront les deux tours en construction bois, dont le PC va être déposé lundi pour la première. Donc vous voyez, c'est des choses qui avancent et qui vont donner la visibilité à grande échelle de, voilà, de loin, on saura que le centre de l'Atlantique, c'est au niveau de ces deux émergences, puisqu'il y a un grand paysage qui est plutôt plat dans cette ville. Troisième exemple de quartier, c'est celui du jardin de Lars. Le jardin de Lars, ce sont actuellement à la fois des friches ferroviaires, des friches qu'on a reconquises sur des anciennes zones de boîtes à chaussures commerciales. L'idée à cet endroit-là, c'est de créer le deuxième plus grand parc intramuros de Bordeaux, donc le deuxième plus grand parc après le jardin public. Un parc d'une dizaine d'hectares qui va aussi servir de cuvette de rétention d'eau pour sécuriser l'ensemble de nos quartiers. Ce parc sera un parc où il y aura des façades tout autour. Les bâtiments qui vont être autour vont être contre le parc. On va essayer de limiter au maximum les rues qui vont longer le parc, et ainsi de suite, pour apporter de la qualité, du confort et de la sécurité dans l'usage. Un parc conçu autour des questions donc, de gestion des risques d'inondation, de comment on se l'approprie en termes d'usage, donc toutes les thématiques que je vous ai évoquées tout à l'heure, mais aussi un parc qui aura une vocation pédagogique. Bordeaux, historiquement, est une ville où il y a un patrimoine, un héritage des jardins botaniques extrêmement fort. Ça vient du XVIIe, XVIIIe siècle, à l'époque du port, où les explorateurs ramenaient les plantes du bout du monde. Il y a 20 ans, la ville a recréé un autre jardin botanique qui est magnifique. Je vous conseille d'y aller. Ici, c'est l'heure de la grande région. On va essayer de faire un jardin qui évoque les paysages de la grande région, que ce soit du Piémont pyrénéen au plateau corrézien, au marais poitevin, et ainsi de suite, pour donner à voir ça. Donc une logique aussi de pédagogie dans l'espace public. Et puis autour, on va l'habiter, on va y vivre, et on retrouve les thématiques usuelles de l'établissement, à la fois dans les architectures, les couleurs, à la fois dans l'accompagnement des équipements publics. L'école se lance en chantier en même temps que les autres bâtiments, et à la fois dans une recherche de complexité, finalement, programmatique et constructive, qui va apporter ces éléments qui font vie et qui font ville. La tour que vous voyez là, ça va être la première tour en France où, alors tour, 50 mètres, où on va avoir un immeuble de bureau jusqu'au plancher IGH de l'immeuble de bureau, 28 mètres, et au-dessus, des logements jusqu'au plancher IGH, des logements à 50 mètres. Et tout ça permettra de générer des flux, et ainsi de suite, mais participe aussi à notre politique de stationnement, puisque une des particularités de tous nos immeubles, c'est que les stationnements ne sont pas en sous-sol. Les stationnements sont reportés dans des parkings silos à l'échelle du quartier, qui ont pour effet à la fois de nous permettre d'avoir une politique de foisonnement et de mutualisation des stationnements, donc finalement construire moins de place que la réalité des besoins, en misant sur le fait jour-nuit, mais aussi, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin je vais quand même le dire, c'est pas faciliter la vie de l'habitant. C'est-à-dire que le forcer à sortir dehors pour aller prendre sa voiture et pas seulement prendre l'ascenseur. Le forcer à sortir dehors, ça va avoir deux effets. Un, ça va mettre en vie le quartier, parce que ça va créer des flux, ça va alimenter les commerces, les services, ainsi de suite. Mais aussi, peut-être que juste les 5 minutes qu'il faut prendre pour aller chercher sa voiture, on se dira que c'est peut-être plus rapide d'aller au boulot en vélo. Et avec ces systèmes-là, on a déjà des retours assez intéressants d'usage. On a un immeuble un peu plus loin, un immeuble de bureau d'une grande banque. Quand ils se sont installés, ils ont voulu absolument que 70% de leurs employés aient une place de stationnement dans le quartier. Donc, comme d'habitude, puissance publique, non, 70, c'est peut-être un peu trop, il faudrait peut-être 60. Discussion un peu lourde, mais OK. Mais ça, c'est dans un parking à 300 mètres de chez vous. Ce 70% était calé sur l'usage et les études d'usage qu'ils avaient auprès de leurs employés. 70% des employés qui allaient rejoindre cet immeuble venaient jusqu'à ce moment-là au travail en voiture. Résultat des courses, après 3 mois d'usage, le taux d'usage de la voiture dans cette entreprise, c'est à peu près 1 000 000 d'emplois qui sont dans ce bâtiment, ça fait 10 000 m², est passé à 30%. Les autres venant en vélo, en tram et ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'en mettant en place ce système-là, ça rejoint les politiques de mobilité publique à l'échelle de la métropole qui visent à décongestionner le trafic et ainsi de suite. Et du coup, les 40% de delta vont nous permettre aussi de faire des économies sur les prochains immeubles. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va chercher comme politique. Autre quartier, celui des berges, donc qui est la façade principale de l'opération, en continuité avec les berges historiques, donc au sud de la gare, sur lequel, en premier front, on va avoir là plutôt une logique un peu de, à l'inverse de ce que j'ai dit d'ailleurs, un peu de bâtiments hors échelle, un peu voyants, qui vont s'appuyer sur la MECA, qui est le grand centre d'art contemporain régional que vous verrez en chantier. C'est cette espèce de grande arche un peu déformée. Un certain nombre d'immeubles tertiaires, de bureaux, mais aussi des piscines, et ainsi de suite. Et ce quartier va permettre la refonte totale de l'arrivée autoroutière dans Bordeaux en une transformation boulevard urbain, promenade, dans la logique de la continuité des aménagements des quais qui ont été faits jusqu'à présent. Donc, c'est ce que vous voyez ici, le ours géant représentant une future œuvre d'art qu'on ne connaît pas encore. Le lapin géant, plutôt. Et à l'arrière de ce quartier, en jonction avec le tissu existant, là encore, un certain nombre de constructions qui vont venir se greffer soit sur les existants, c'est le cas, par exemple, de l'image là-haut, où dans déchets, on va reconstituer une auberge de jeunesse, soit des immeubles neufs, c'est le cas de celui-là là-haut, soit des reconversions de friches industrielles, comme on voit ici en bas, où c'est une ancienne halle d'abattoir qu'on transforme en petit centre commercial de proximité, soit d'immeubles neufs qui illustrent totalement notre recherche de complexité. C'est le cas de celui-là en bas. Je pense qu'on allait, là pour la peine, on est presque allé trop loin. Mais ça sort, le PC est déposé. Typiquement, un immeuble comme ça, c'est un immeuble dans lequel, par justement ces efforts faits et en co-construction avec les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage, on arrive à intégrer dans l'opération en cœur de ville un socle de plus de 2000 m² de centres techniques municipaux qui gèrent tous les systèmes de récolte d'ordures du quartier. Au-dessus, un parking silo de 450 places pour les places du quartier. En façade, parce qu'on ne veut pas avoir le parking silo, des logements. Au-dessus, des logements. Et à l'arrière, un immeuble de bureaux. Le tout faisant dans les 20 000 m². Et avec des logiques de superposition volumétrique et structurelle, et puis incendies et ainsi de suite, qui sont pas simples, mais qui nous permettent de maintenir dans le quartier à la fois notre politique de stationnement, mais aussi ces activités qui servent à l'usage de la ville, plutôt que de les renvoyer très loin et de générer à terme des surcoûts de gestion, puisque si on renvoie le parc des camionnettes là, qui entretiennent, qui nettoient les trottoirs et ainsi de suite à 5 km, c'est juste 200 camionnettes à faire 10 km par jour d'essence et ainsi de suite. Donc il y a vraiment cette logique qui se décline à tous les niveaux. Autre quartier, cette fois-ci de l'autre côté du fleuve, quartier des Champs, donc en jonction du quartier de la Bastide, à côté, entre le pont de Pierre et le pont Saint-Jean. Alors aujourd'hui, ce sont des friches. Ce sont des friches où la nature a repris son droit. Et quand on se promène ici, vous sortez de l'immeuble, quand vous regardez en face, on a l'impression de grands espaces verts, de choses comme ça. Et dans l'imaginaire bordelais, de ce côté-ci du fleuve, c'est la rive de pierre. De l'autre côté, c'est la rive nature. Comment on concilie une production immobilière lourde, c'est 450 000 m², un quartier comme ça, avec le maintien d'une image de ville nature? Et donc là, tout le parti pris a été d'être en avance de phase sur la création, des espaces verts, et d'avoir une densité d'espaces verts extrêmement importante dans ce quartier, avec des effets de percée et de profondeur permettant à terme de conserver cette notion et cette image de rive nature, déjà perçue quand on habitera dedans, puisque quasiment tous les immeubles auront un lien visuel avec de l'espace vert, mais vu de l'autre côté, les volumétries, les recherches, ainsi de suite, et surtout le fait que les espaces verts sont conçus 2-3 ans avant la réalisation des immeubles, fait que les arbres ont le temps de pousser et donc permettent d'impacter les futurs immeubles. Là encore, un certain nombre d'immeubles vont être réalisés dans la même foulée et dans la même logique de temps, avec toujours les mêmes thématiques, immobilier complexe. L'immeuble du bas, par exemple, c'est pareil, parking de 450 places pour l'ensemble du quartier. En façade du parking, salle de sport et autres, terrain de tennis couvert que vous voyez dans ce grand préau, qui fonctionne avec la plaine sportive qui est devant, mais qui est intégrée, elle, dans un parc pour cette logique de ville nature. Au-dessus, différents logements, qu'ils soient collectifs, semi-collectifs ou individuels, qui viennent impacter le parking et qui le cachent. Des bâtiments d'une échelle beaucoup plus basse, dès qu'on va venir se caler à la ville existante. La ville existante est en fait des shops en R+1. La volonté, c'est d'avoir un mouvement de coupe qui permette de rattraper cette échelle depuis la ville. Et donc là, on teste des programmes de construction innovants. Le premier, c'est tout un îlot qui fait, ça doit faire dans les 4-5 000 m2, d'immeubles et de maisons en pierre porteuse, donc 40 cm d'épaisseur de pierre, de taille. Donc ça veut dire qu'on travaille avec les carriéristes, on relance les carrières locales et ainsi de suite pour participer à cette production. Ici, c'est un ensemble de projets de maisons individuelles, qu'elles soient à la fois sociales ou de grand luxe, faites par RCR, donc, qui est une agence locale qui a eu le Pritzker cette année, où on cherche à créer des maisons qui s'incrustent totalement, qui soient fusionnées avec la nature, et en créant des programmes qui, je pense, vont être assez extraordinaires. Dernier quartier, celui du Belvédère, donc toujours sur la rive droite, qui se situe en front du pont Saint-Jean. Donc à Bordeaux, il n'y a pas beaucoup de ponts. Il y a dans le Bordeaux intramuros, il y a 3 ponts, plus 2 autres sur la rocade, et il y en aura bientôt un 4e. Ce pont-là, c'est un pont fonctionnel. On ne le passe pas à pied, ni en vélo. Et au bout, il y a un énorme échangeur. Donc la logique, c'est de reconfigurer l'échangeur et de créer un quartier qui soit d'échelle métropolitaine, fonctionnant autour d'une place. La place que vous voyez là, elle est à peu près la taille de la place de la Bourse, et elle va être légèrement décalée pour être calée en grand paysage sur la vue de la façade Gabriel. Et puis tout autour, un ensemble de constructions, de logements, de bureaux, d'activités, de commerces, tous les ingrédients que je vous évoquais habituellement, avec là aussi une dizaine de PC qui vont être déposés d'ici la fin de l'année. Et sur ces PC, toujours les mêmes thématiques. Look d'ensemble, on n'a qu'à dire. Attention particulière sur les rez-de-chaussée. Comment le rez-de-chaussée va fonctionner avec la ville? Comment il est accueillant? Comment on a envie d'entrer dedans? Intégration d'équipements ou de services au public qui vont permettre de continuer la vie urbaine de Bordeaux. Vous avez fait la fête hier soir dans Bordeaux. Quand vous avez dû sortir de la cour, il y avait, je pense, beaucoup de monde dans les rues. Comment on va faire que dans ces nouveaux quartiers, ça soit la même chose? Là, le bâtiment qui est là-haut, c'est la Bellevilloise, la salle des fêtes là, et la boîte de nuit qu'il y a dans Paris, qui vient s'installer sur cette place pour faire vivre ce quartier et accélérer aussi, dynamiser les cafés qui vont être autour pour être toujours dans cette logique de faut que ça vive. Dernier exemple, alors ce n'est pas un quartier, mais c'est un bâtiment, il est tellement gros que ça pourrait être un quartier. C'est la cité numérique que je vous évoquais tout à l'heure. Donc qui est cet exemple de jonction, la plus aboutie entre développement économique et aménagement urbain. À la naissance de l'établissement, parmi les apports fonciers, parmi les 100 millions d'euros que j'évoquais, on a hérité de ça. Ça, c'est un bâtiment qui fait 300-400 mètres de long sur plus de 50 de large, sans aucune ouverture, et ainsi de suite. Totalement amianté, une horreur. Et économiquement, ce n'était pas forcément très simple de le faire muter. Parallèlement, la filière économique locale informatique s'est structurée autour de la French Tech. Et donc, on a utilisé ces deux deux sujets un petit peu aux antipodes l'un de l'autre, pour créer une convergence, se faire aider au renforcement de la filière locale, réunir les différents acteurs économiques autour d'un projet commun, qui est la transformation de ce bâtiment en leur futur centre de vie. Les faire vivre tous ensemble et faire un bâtiment qui soit, qui réponde à leurs attentes. Et parmi la question de la réponse aux attentes, qui correspondent à leurs besoins, à leurs moyens économiques. Et donc, plutôt que de dire on va tout raser, faire des immeubles neufs aux standards internationaux et ainsi de suite, avec des loyers à 180-200 € en fonction de la qualité, on va prendre à l'inverse, vous avez quelle disposition financière, plutôt 140 € en loyer, et on va tailler dans le bâtiment de façon brute, et on va livrer des locaux avec le niveau de prestation au strict nécessaire pour permettre à toutes ces entreprises, qu'elles fassent 2 employés à des dizaines ou des centaines, de travailler ensemble et de se réunir autour d'un projet commun. Et donc, ça nous a permis, ce bâtiment il fait 28 000 m2, après les travaux il en fait 26 ou 27 000, ça nous a permis de réunir 80% de la commercialisation de cet immeuble il y a, en début d'année, et donc de lancer les travaux avec, dans ces 80% de pré-commercialisation, un certain nombre de start-up, mais aussi d'entreprises de taille moyenne, et par l'effet un peu village que ça a créé, des multinationales sont venues aussi se greffer, qu'elles soient françaises ou internationales, et qui sont venues se greffer en mettant des services informatiques, des services de recherche, et ainsi de suite, dans cet environnement. Et donc, ça amène à cette image de transformation du territoire. Il y a 6 mois, ben voilà, on était dans le centre de tri au milieu de couloirs interminables. En ce moment, cette photo date d'il y a 1 ou 2 semaines, ben, la cité numérique est percée, et dans 6 mois, elle est finie et les entreprises s'installent. Donc voilà un petit peu pour donner une image des différentes activités d'Euro Atlantique, de ces différents quartiers, et finalement de son activité, de son dynamisme et de son évolution. Voilà. Non, si, ça marche. Je n'ai pas évoqué ces projets parce qu'en fait, il y en a plein que je n'ai pas évoqués. Là, c'était vraiment un aperçu ultra light de l'ensemble de la production. Il y a le nouveau pont. En fait, en réalité, il y a 2 nouveaux ponts. Il y a un pont sur la Garonne, celui dont le chantier a été lancé, et il y a un pont de la même taille sur les voies ferrées. La métropole fait le pont, en fait on s'est réparti les ponts parce que ça faisait juste trop de charge de travail. La métropole fait celui sur la Garonne, nous on fait celui sur les voies ferrées. Les deux sont en travaux actuellement, Le pont sur les voies ferrées est plus avancé. On va lancer la première partie en décembre. Celui sur la Garonne, c'est tout ce qui est actuellement phase de préparation de chantier, ainsi de suite. Les deux devant être livrés aux alentours de 2020 pour desservir et désenclaver à la grande échelle, à l'échelle métropolitaine, notre quartier. Sur l'Arena, c'est la même chose. C'est un grand équipement public, une salle des fêtes qui va ouvrir en décembre avec une capacité de 3 000 à 12 000 places suivant les jauges. Et ça fait partie de ces gros équipements culturels, semi-publics ou de service public, enfin d'usage public qu'on a sur le territoire. C'est le même cas avec la MECA, c'est le cas de ce pont-là et on en aura un certain nombre d'autres. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. Voilà. Oui. Alors, sur la question de la densité, on s'adapte au cas par cas, suivant les quartiers, suivant les capacités de jonction avec l'existant, mais aussi suivant le process économique. Très clairement, si la densité que nous générons ne nous permet pas de faire l'opération, elle est remise en question pour permettre de faire l'opération. Ça, c'est très clair. Par contre, sur ces questions de densité, le parti pris est de trouver les moyens de la faire accompagner. C'est à la fois sur les formes urbaines qu'on va générer, mais aussi sur les proportions d'espace public. Nous, on est extrêmement vigilant à ce que la densité perçue soit acceptable. On a des systèmes de retrait sur les étages supérieurs ou autres qui permettent de descendre ça. Mais surtout, que dans la production de nos quartiers, tous les quartiers soient réalisés autour d'espaces publics structurants, suffisamment larges, pour rabaisser cet effet de densité. Donc on assume d'être dans une ville dense, totalement, c'est le cas. De toute façon, notre système ne marcherait pas autrement. Mais plutôt que de faire une multitude de plots qui vont se découper, zigzaguer et autres, pour essayer de donner un semblant de densité, on va plutôt être sur des choses assez concentrées sur la partie privative, sur la construction, pour mettre à profit le plus d'espace public possible. Quand on prend l'exemple du pont, du jardin de l'Ars que j'évoquais tout à l'heure, quand on a pris l'opération il y a 2 ans, ce jardin faisait moins de 6 hectares. Maintenant, il en fait 10, et le parti pris a été de dire, on densifie les îlots qui sont autour, mais en contrepartie, on offre un espace public à l'ensemble de la population, à l'ensemble des usagers, qui soit le plus grand possible. Et donc ça, c'est un peu les points sur lesquels on travaille. Après, on fait aussi beaucoup de tests en maquette et en réalité virtuelle pour dire jusqu'où c'est acceptable, comment on fait, ainsi de suite. C'est à la fois... c'est plusieurs concepts en même temps. C'est à la fois le fait de s'inscrire dans cette histoire de cette ville, hein, de l'Antiquité à aujourd'hui, et que faire en sorte que notre quartier soit perçu dans cette même capacité d'adaptation que ces autres quartiers qui ont évolué, ils n'ont pas les mêmes fonctions qu'au Moyen-Âge ou au XVIIIe siècle, et à la fois le fait que nos bâtiments soient conçus aujourd'hui pour quelque chose et que demain, ils puissent être autre chose. Demain, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 100 ans, mais qui est malgré tout suffisamment de souplesse dans la parcelle créée, dans le bâtiment créé, dans les fonctionnalités par leur diversité créée, qui permettent d'évoluer avec les bonnes idées qui arriveront à ces moments-là. C'est ça qu'on évoquait.